Nous parlons maintenant de la RSE. Alors RSE, avant de dire ce que c'est, je présente simplement Dominique Ledouble qui est avec moi, expert comptable, commissaire aux comptes. Et donc Dominique, nous allons parler de cette notion de RSE. RSE, je prends l'une des traductions possibles du sigle, responsabilité sociale et environnementale. On rencontre aussi responsabilité sociétale et environnementale ou simplement responsabilité sociale de l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est la RSE? C'est un ensemble de règles qui vont s'appliquer aux entreprises. Je préfère rester prudent pour le moment, ne pas donner de définition trop précise parce que sinon on pourrait oublier une partie de la RSE en cours de route. Ça se traduit comment en droit des sociétés? Bon, disons simplement que c'est l'idée que la société, que l'entreprise est responsable. Elle n'a pas seulement une responsabilité envers ses associés. La société ne doit pas seulement réaliser un bénéfice, mais elle a aussi une responsabilité envers la société au sens large. Et donc, il faut notamment que l'on s'assure que l'entreprise exploitée par la société n'a pas un impact trop négatif sur l'environnement et que l'entreprise se préoccupe d'un certain nombre de valeurs. Alors concrètement, ça prend une traduction dans le rapport de gestion, dans le rapport que fait annuellement le conseil d'administration dans les sociétés anonymes, pas dans toutes les sociétés anonymes, dans les grandes sociétés anonymes et dans les sociétés anonymes cotées en bourse, on va demander que figure dans ce rapport un certain nombre d'informations. C'est l'article L225-102-1 du Code de commerce qui nous dit que le rapport comprend également, je ne vais pas lire en entier l'alinéa, des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. On pourrait ajouter une longue liste à cela. L'idée est que la société va expliquer ce qu'elle fait dans ces domaines dans le cadre de son rapport. L'idée, je crois, étant que la société va se trouver amenée à dire qu'elle fait quelque chose et donc à faire quelque chose. Dominique, qu'est-ce que tu penses, toi, de la RSE?
Alors, sur la RSE, il y a beaucoup de sujets compliqués. Sur le sujet lui-même de la RSE, je pense que ce qu'il faut bien noter, c'est que d'abord, on est à un démarrage, et on est à un démarrage de quelque chose qui va produire de l'information qui est à la fois chiffrée et non chiffrée, avec les difficultés que ça comporte en termes de vérification ou de traçabilité derrière pour l'information non chiffrée, qui est de l'information littéraire. Et quant à l'information chiffrée, c'est de l'information chiffrée que jusqu'ici, les entreprises n'ont pas tellement l'habitude de fournir d'abord et de vérifier ensuite. Donc on est dans un starting block où on va commencer un mouvement qui va progressivement faire que cet ensemble d'informations nouveaux, progressivement atteignent un niveau, je dirais, d'auditabilité et de qualité qui soit équivalent à celui qu'on peut trouver aujourd'hui dans les comptes, qui, je le rappelle, se composent aussi de chiffres et de lettres, puisque l'annexe est largement composée aujourd'hui de textes que je dirais littéraires et pas seulement de chiffres.
D'accord, mais dans ce que tu dis, il y a une chose qui est vraiment importante, enfin tout est important bien sûr, mais une chose particulièrement, c'est qu'on est véritablement à un démarrage de cette RSE et qu'aujourd'hui, elle ne concerne, ou ces obligations que nous avons évoquées ne concernent que certaines sociétés, les plus grandes d'entre elles. Progressivement, on va baisser les seuils et peut-être que demain, toutes les sociétés seront concernées par ce type d'obligation.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que dans beaucoup de grands groupes, il y a des phénomènes qui consistent à sous-traiter une partie des activités, notamment les activités les plus polluantes, à des entreprises qui sont en dehors du groupe. Donc il faut élargir le
Bien sûr.
périmètre si on veut être certain de prendre l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Vous avez des groupes aujourd'hui très connus, qui sont des marques, qui sont des désignations de produits, qui sont les définitions de produits, mais qui ne fabriquent rien. Elles font tout fabriquer à l'extérieur. Et on ne peut pas dire, ah ben, je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur parce que ce n'est pas moi qui fais. Hein? Donc il y a toute une évolution qui se fait à ce niveau-là, une prise de conscience, dont vous avez vu des phénomènes très importants. parfois aussi des scandales, quand on a découvert que tel fabricant de chaussures ou autre, il faisait fabriquer dans des pays à bas coût et dans des conditions que, évidemment, jamais personne n'aurait accepté dans son pays d'origine. Hein. Alors, il y a aussi derrière actuellement un autre mouvement qui est en train de se faire, un double mouvement. Il y a d'abord le fait que la RSE est aujourd'hui un phénomène qui va devenir européen, puisqu'il y a un projet de directive sur ce sujet qui vient d'être publié. Et puis il y a un autre mouvement qui est assez différent, qui est un mouvement d'origine anglo-saxonne, et qui a consisté à se dire, dans le fond, avec le texte, par exemple, pendant le cas du texte français, on aboutit à quelque chose qui est, si je peux m'exprimer ainsi, une information en silo. C'est-à-dire, vous avez le silo des informations financières et comptables, et puis vous avez le silo des informations RSE dites non financières. Bon. Et puis, entre les deux, vous n'avez pas de pont. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment l'interaction se fait entre le fait d'avoir tel type de politique en matière d'environnement et le résultat que ça donne. Hein. Et ce qu'on dit sur l'environnement, c'est vrai aussi sur la gouvernance ou sur les aspects sociaux. Hein. Intuitivement, on sent bien qu'une entreprise dans laquelle le personnel a un moral d'acier, ça va probablement être plus rentable qu'une entreprise dans laquelle le personnel a, passez-moi l'expression, le moral dans les chaussures. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore passer de l'un à l'autre, savoir quelle est l'incidence financière de l'un à l'autre. Et c'est ce mouvement qui est en train de se créer, on commence à y travailler dans les grandes entreprises françaises, pour faire un rapport intégré, c'est-à-dire quelque chose qui, comme son nom l'indique, va bien montrer les interactions entre ce qui est non financier et ce qui est financier. Parce que pour terminer sur cette question, on va revenir à quelque chose de simple. Personne n'achèterait une entreprise uniquement sur ses chiffres financiers.
Bien sûr.
Voilà. Bon, mais ce qui est vrai pour l'investisseur unique qui, lui, peut faire 14 fois le tour de l'entreprise s'il en a envie, évidemment, ce n'est pas le cas de celui qui achète une action en bourse. Donc il faut bien qu'on lui donne cette information équivalente qui va lui permettre de se dire, ben voilà, je vais investir là parce que la manière dont les facteurs de production sont pris en compte, la façon dont je traite mon personnel, la façon dont je m'occupe de l'environnement, etc., etc., eh ben, ça va faire que je vais avoir un développement plus durable, puisque c'est ça l'objectif et c'est ça qui est recherché. Donc c'est un mouvement qui est parti, qui est pas du tout facile, hein, qui est compliqué sur le plan conceptuel, on est en train de chercher les outils, mais qui, je pense, va prospérer dans les années qui viennent.
Oui, oui, on essaye notamment d'uniformiser l'information qui est donnée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'AMF tente de faire marcher les sociétés qu'elle contrôle sur une même route, mais c'est vrai que sinon, la tentation, c'est de donner des informations, enfin, ça rend difficilement lisible cette information.
Oui, d'autant plus que, contrairement à ce qu'on peut penser au départ, même des indicateurs très simples supposent un vrai protocole de définition. Par exemple, l'AMF a fait un travail là-dessus dans son rapport il y a 2 ans. Qu'est-ce que c'est que l'effectif dans une entreprise à une date donnée ? Vous avez des tas de petites subtilités pour savoir si vous prenez les gens qui sont malades, les gens qui sont en contrat à durée déterminée, les gens qui remplacent, les stagiaires, j'en passe et des meilleurs. Hein, et vous pouvez avoir de bonne foi une mesure de choses qui paraissent simples, l'effectif dans une entreprise, qui peut être très différente d'un groupe à l'autre. Donc vous voyez qu'il y a tout un travail de normalisation derrière pour être sûr que, voilà, on met à peu près la même chose derrière les mots.
Très bien. Dominique, je te remercie.